Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Le 24 juin prochain auront lieu en Turquie des élections générales anticipées, présidentielles et législatives. Normalement, ces élections devaient avoir lieu fin 2019. Certains analystes estiment que le président Recep Tayyip Erdogan veut éviter de subir l'éventuel effet électoral de la dégradation de la situation économique du pays. Depuis plusieurs mois, la population souffre de la baisse de son pouvoir d'achat en raison d'une inflation qui accélère. De leur côté, les agences de notation internationale s'inquiètent de l'évolution de la livre turque, la monnaie nationale, et de la situation des finances publiques. Pourquoi cette dégradation, malgré un PIB en forte hausse? Nous allons poser la question à deux économistes qui connaissent parfaitement la Turquie. Bonjour Deniz Ünal.
Bonjour.
Deniz Ünal, vous êtes économiste au CEPI, le Centre d'études prospectives et d'informations internationales, un des grands centres de recherche économique français. Vous y êtes responsable des profils pays, une base de données par pays très utile à tous ceux qui ont besoin de données fiables. Vous publiez en ce moment sur le blog du CEPI, en partenariat avec le site internet The Conversation, une série d'articles intitulée « Le puzzle turc ». Et avec nous dans cette émission, Deniz Akagül. Bonjour Deniz Akagül.
Bonjour.
Deniz Akagül, vous êtes en duplex des studios de France Bleu à Lille, dans le nord de la France. Lille où vous enseignez l'économie à la faculté de sciences économiques et sociales. Vous êtes membre du comité éditorial de la revue Anatolie du CNRS. Et parmi vos nombreuses publications, un livre intitulé « La Turquie d'une révolution à une autre » aux éditions Fayard en 2013. Rien depuis, Deniz Akagül ?
Si, depuis cette date, en 2014, nous avons publié un numéro de l'Anatolie sur les configurations économiques dans l'espace post-ottoman.
Alors nous allons en parler probablement de cette configuration économique dans l'espace post-ottoman, en particulier grâce à des reportages de Camille Lafrance depuis Istanbul qu'on retrouve tout au long de l'émission. Normalement, je le disais, les scrutins présidentiels et législatifs étaient prévus pour la fin de l'année 2019. Ils auront lieu 18 mois plus tôt, donc dans deux semaines, parce que le président Erdogan craindrait, dit-on, l'aggravation de la situation économique et son impact électoral. Est-ce que l'économie turque, Deniz Akagül, est dans une spirale susceptible d'inquiéter le pouvoir turc ?
Oui, effectivement, puisque nous sommes en présence des signes précurseurs d'une crise de surchauffe avec la dépréciation rapide de la livre turque. La question étant de savoir si cette configuration va aboutir à une récession, c'est-à-dire à un ralentissement de la croissance du revenu national, ou bien à une dépression qui peut se traduire par une baisse du revenu national comme en 2001.
Alors, crise de surchauffe, vous voulez dire quoi par ça ?
Donc c'est un excès de demande et qui se traduit par un déficit extérieur de l'économie turque. Et cette fois-ci encore, il s'agit d'une crise fait maison, hein, et que la décision du pouvoir en place, comme vous l'avez dit, pour anticiper les élections présidentielles et législatives, vient confirmer cette perspective.
Deniz Ünal, la surchauffe s'explique comment ? Parce qu'il y a un produit intérieur brut en trop forte hausse ?
Oui, parce que c'est vrai que le PIB a augmenté de plus de 7% entre 2016 et 2017, mais aussi il faut considérer qu'en 2016, le PIB avait eu un grand choc à cause de la tentative de coup d'État. Donc on est parti d'un point très bas pour avoir quand même un taux de croissance de 7,4. Là, c'est comme un peu la Chine et l'Inde, comme des très grands émergents. On a réussi, entre guillemets, à faire ça. Mais évidemment, ce n'est pas sans conséquence. Comment on le fait avec beaucoup de crédit aussi ? Parce que c'est basé surtout sur la demande donc des consommateurs, mais aussi de l'État qui lance beaucoup de projets d'infrastructures. Et il y a aussi le financement de ces projets d'infrastructures.
Quel projet d'infrastructure ?
Prenons par exemple le cas de l'aéroport, le troisième aéroport d'Istanbul, qui va être l'un des plus grands aéroports au monde. Et ça, c'est un partenariat souvent public-privé, mais le public avance beaucoup d'argent. Et ou bien des grands projets qui peuvent être des projets routiers et des grands projets énergétiques, toujours partenariat public-privé, mais à la fin, il y a beaucoup d'apports publics. D'un côté, ça peut être très bien parce que c'est des infrastructures qui peuvent être indispensables, mais de notre côté, si ce n'est pas bien géré et s'il y a une opacité dans le financement, s'il n'y a pas d'autorité de régulation qui fonctionne correctement, ça peut être très dangereux pour le pays.
Denisa Cagul, le recours au crédit pour financer la consommation explique cette surchauffe ?
Oui, effectivement, le gouvernement a lancé aussi une politique avec des taux d'intérêt bonifiés qui étaient accordés en fait.
Les taux d'intérêt bonifiés, c'est-à-dire des taux d'intérêt très bas, subventionnés.
Très bas, subventionnés en partie, puisque en fait, il s'agit d'une pratique des années 1990 qu'on croyait enterrée. En fait, la création monétaire est opérée par le billet des banques publiques et non plus par la banque centrale avec la monétisation des déficits. Mais là, il y a, pour cette croissance de 2017, il y a une autre interprétation assez grave. Il s'agit d'une remise en cause de la crédibilité des données fournies par le TÜİK.
C'est
l'Organisation des statistiques de Turquie.
Ouais.
Depuis 2016, le TÜİK a changé de méthode de calcul dans l'évaluation du PIB. Et selon cette nouvelle série, la corrélation qui existait entre l'évolution du PIB par habitant, d'une part, et les variables comme la consommation d'énergie, ou encore les émissions de CO2 d'autre part, a complètement disparu. On peut être d'accord avec le fait que le développement économique affaiblit cette corrélation à long terme, mais cette disparition à court terme paraît, pour le moins que l'on puisse dire, douteuse.
Moi, ce que j'ai pu voir donc dans les données de Turc, notamment avec les analyses du FMI aussi dans son dernier rapport, le problème vient du niveau du PIB, pas forcément de sa croissance. C'est-à-dire que je crois que dans la nouvelle série du PIB, ils ont voulu donc prendre en compte mieux certains secteurs qui ne paraissaient pas aussi bien dans le PIB. Ça arrive souvent. Par exemple, l'Inde a procédé à une telle opération, Brésil aussi.
Et le Ghana, le Nigeria.
Voilà. Et dans le temps, la France, enfin les pays développés aussi avaient déjà fait. Notre problème en Turquie, les deux séries, maintenant ceux qui se sont basés, je crois, sur l'année 2009 et les séries d'avant ne se collent pas. Et il n'y a pas des transitions entre les deux. C'est un problème plutôt de niveau que de croissance. Mais peut-être que je ne sais pas ce qu'il pense
Denisa
là-dessus.
Quoi qu'il en soit, Denisa Cagul, est-ce qu'au cours des dernières années, la Turquie s'est enrichie ? Est-ce que le pays s'est développé ?
On peut distinguer en fait deux périodes, de 2002 à 2008-2009, le PIB par habitant a bien augmenté, mais depuis, on est en situation, je dirais, stationnaire.
Malgré ces 7% de 2017.
Bah, si on observe l'évolution du PIB par habitant exprimé en dollars, on est toujours aux alentours de 10 000 dollars par habitant.
Denis Ounal.
Bien sûr, parce que quand on reviendra, nous on a donc une croissance du PIB en termes réels,
du PIB,
mais en livres turcs. Quand on le en dollars, c'est ce qu'il dit Denis, c'est donc puisqu'on a eu une forte dépréciation de la monnaie
on
depuis quelques temps qu'on parlera, du coup, en dollars, le PIB turc est stagnant.
Alors il y a un phénomène qui est majeur en ce moment dans l'économie turque, c'est l'inflation. Parce que faire fonctionner la planche à billets, financer les infrastructures, bonifier des taux d'intérêt, ça veut dire la création monétaire et ça se traduit aussi par la hausse des prix. Et c'est évidemment un problème pour les consommateurs turcs. L'inflation dépasse en ce moment les 10%, donc à deux chiffres. La combattre est une priorité, a pourtant déclaré le vice-premier ministre Mehmet Simsek. Écoutez ce reportage d'Eco d'ailleurs, signé Camille La France à Istanbul.
Vous voyez ici, je mets pas l'électricité. Quand un client vient, j'allume l'électricité. Je fais très attention. Avant, je pensais pas à tout ça. C'est la première fois dans ma vie que il faut que je fasse l'économie.
Dans sa boutique exiguë, véritable caverne d'Ali Baba, au milieu de tonnes de bibelots et d'objets de différentes époques, Karaja Borar, brocanteur, dit avoir perdu 60% de son chiffre d'affaires en quelques années. Les touristes sont moins nombreux, tout comme ses clients réguliers, dont des professionnels de l'industrie du cinéma ou de la publicité.
Juste derrière vous, vous avez mis une petite note en anglais.
No bargaining under 10 lira. It's embarrassing.
Donc pas de marchandage sous 10 livres turcs, c'est embarrassant.
C'est embarrassant, c'est voilà.
Donc sous 2 euros à peine.
Oui, voilà.
Ça dépend des jours.
Les gens font ça.
La Turquie importe son essence et son prix augmente à cause de la dévaluation de la monnaie nationale. À la station-service, plusieurs clients confirment que leur facture ne cesse de grimper et qu'il devient de plus en plus difficile de faire face au quotidien.
Il y a une augmentation du prix de l'essence. On voit de grandes différences. À Istanbul, il y a beaucoup d'embouteillages. Cette situation nous en fait consommer encore plus. Et moi, je prends ma voiture presque tous les jours.
Roxane, elle aussi, s'inquiète de cette inflation qui ne redescend plus. Cette franco-turque tient un barrage dans un quartier branché d'Istanbul.
Et ça nous touche énormément, comme un kilo de carottes il y a 2 semaines. Là où le dollar était à 4,2, il coûtait 2 lire 50. Et aujourd'hui, il est à 5,50. Plus du double, oui. Et puis, je vais devoir augmenter mes prix. Un cercle vicieux, c'est ça, ouais.
L'objectif officiel des autorités turques était de faire revenir l'inflation à 5%, inenvisageable pour Seyfettin Gürsel, professeur d'économie à l'université Bahçeşehir d'Istanbul.
L'inflation, probablement, il va monter jusqu'à 13-14%. L'économie turque risque de vivre une récession dans les prochains mois. Tout simplement, maintenant, on essaie d'éteindre l'incendie. Tout le monde sait très bien qu'on ne peut pas vivre avec cette inflation élevée. Donc il y aura un prix à payer pour reprendre le contrôle, quel que soit le candidat qui va être élu le 24 juin.
Le président turc craint que la dégradation de l'économie influe sur le choix dans les urnes. Il reste cependant opposé à la hausse des taux d'intérêt de la Banque centrale, pourtant préconisée pour faire baisser cette inflation.
Un reportage signé Camille. La France à Istanbul. Alors il y a deux phénomènes concomitants, l'un explique l'autre, mais on va parler d'abord de l'inflation, puis on reviendra après sur ce problème de la livre turque par rapport au dollar. Est-ce qu'elle affecte cette inflation toute la société turque, Deniz Unal?
Il faut rappeler, peut-être qu'on a oublié, mais la société turque, comme les sociétés latino-américaines, a connu des taux d'inflation record plus de 100% jusqu'aux années 2000. Et maintenant, donc, on était dans des taux d'inflation proches de 7%, 5%. Et là, il y a une peur de revenir avant, à la période d'avant. Qu'est-ce qui se passe dans la période d'avant? Constamment, vous savez que l'argent que vous avez là, que vous avez touché 100 livres, eh ben demain, ça peut devenir 50 livres. Constamment, constamment. Donc, tout le monde va dans une fuite en avant. Mais les salaires n'augmentent pas autant, pourtant le loyer augmente et tout ce qu'on achète au marché augmente. Actuellement, ce qui est très intéressant, le gouvernement est très conscient de ça. En ce qui concerne les dépenses énergétiques, ils ont interdit d'augmenter le prix de l'énergie et les taxes liées à ça. En ce moment, on est zéro augmentation. Mais après les élections, et ça, c'est vraiment un très gros poste de dépenses en Turquie. Et après, ça va encore plus augmenter. Et pour revenir à ce qu'on disait dans le reportage, donc le président Erdogan est intervenu d'une manière très forte au cours des dernières années et même des derniers mois pour qu'on n'augmente pas les taux d'intérêt. Parce que qu'est-ce qu'on va essayer de faire pour attirer de l'argent vers l'épargne, vers la banque? On doit augmenter les taux d'intérêt pour contrer l'inflation. Mais le président Erdogan était contre pour des raisons d'abord. Du coup, l'industrie ou bien tout ce qui est le monde d'affaires n'allait pas pouvoir emprunter à des crédits raisonnables, mais aussi dans l'idée d'une économie qui respecte beaucoup maintenant l'islam, les taux d'intérêt, c'est affaire d'usurier, c'est mal. Mais là, c'est allé tellement loin que depuis maintenant une semaine, on a augmenté le taux d'intérêt directeur de la banque centrale d'une manière significative. Et maintenant, la Turquie, je trouve, se trouve en quatrième position au monde au niveau du taux d'intérêt. Et ça va sans doute continuer pour pouvoir indiquer. On doit être autour, en ce moment, on est autour de plus de 17%, disons 18%.
De quoi? De taux d'intérêt de la banque centrale.
Et sans doute, on devrait aller vers les 20 pour que ce soit gérable. Et ça, ça rend l'économie turque attractive par ces temps où, imaginez, ici, on est dans des taux négatifs en Europe. Donc, du coup, on a intérêt.
Les capitaux étrangers vont avoir intérêt à se placer en Turquie.
Oui, c'est un type de commerce qui est très intéressant. C'est d'emprunter, par exemple, en France, aller placer en Turquie cet argent en livres turcs et retirer à temps. Et du coup, on fait des plus-values pour des gros investisseurs. Ça a un peu changé la donne. Mais il faut qu'ils aillent jusqu'à 20% pour que ce soit viable pour l'économie turque, d'après ce que je crois.
Deniz Akgül, pour revenir à l'inflation, est-ce qu'elle s'explique seulement par ce dont on va parler un peu plus tard, c'est-à-dire la dévaluation de la livre turque?
L'origine du mal, en fait, est structurelle. Donc à savoir le déficit extérieur de l'économie turque. Il s'agit d'un mode de croissance dépendant des apports de capitaux extérieurs. Et cette dépendance s'est fortement accrue depuis la crise de 2001. Alors pour vous donner une idée, sur la période 2002-2017, ces apports ont correspondu à peu près à 5% du PIB turc. Alors qu'il correspondait auparavant, sur la période par exemple de 1980 à 2001, à peu près à 1% du PIB turc. Et pour comprendre cet afflux de capitaux inédits, il est possible de considérer en gros deux périodes. De 2002 à 2008-2009, jusqu'à la crise de subprimes, l'économie turque est devenue attractive pour les investisseurs étrangers, notamment en raison des politiques économiques qui privilégiaient la stabilité macroéconomique, donc à l'abri des tentations populistes, et grâce aussi à l'ouverture des négociations avec l'Union européenne en 2005. On observe en effet une nette augmentation de la part de la Turquie dans les flux de capitaux mondiaux. Donc, à cette époque-là, la Turquie avait une belle histoire à offrir aux bailleurs de fonds étrangers. Alors que la crise de subprimes, si elle a plongé l'économie turque en dépression dans un premier temps, elle a constitué par la suite une aubaine pour le financement de déficits extérieurs croissants et a permis en fait de masquer le recul de l'activité de l'économie turque. Et pour vous donner une idée, pour expliquer les difficultés actuelles, c'est que la Turquie doit trouver chaque année l'équivalent d'un quart de son PIB pour rembourser la dette, arriver à terme, à échéance, et financer son déficit courant. Donc tout ralentissement dans ce financement est source de ralentissement de l'activité en Turquie, qui peut se traduire soit par l'inflation ou la dépréciation de la livre turque, qui par la suite, évidemment, manifestait par de l'inflation.
Deniz Akgül, est-ce que la hausse des prix du pétrole des derniers mois pose un problème à l'économie turque?
Oui, le gouvernement avait bénéficié en fait des bas niveaux du prix du pétrole, ce qui augmente la facture énergétique de la Turquie. Et comme Deniz l'a précisé, pour l'instant, on ne répercute pas ces hausses sur les prix domestiques en attendant donc la fin des élections.
Donc c'est le gouvernement qui, ou sont les importateurs privés qui financent cette hausse?
Le gouvernement qui prélève, en fait, lorsqu'on achète un litre d'essence, on paie en gros à hauteur de 10-15% peut-être le producteur, mais le reste sont des taxes en France comme en Turquie. Et donc pour l'instant c'est l'État qui renonce donc à augmenter ces taxes sur l'essence.
Deniz Unal, la Turquie, c'est un pays dépendant sur le plan énergétique?
Ah oui, ça c'est vraiment la question en Turquie, l'une des questions qui se trouve dans le déficit chronique courant turc. Si vous enlevez les dépenses énergétiques, le déficit énergétique dans le compte courant turc, notre compte en Turquie est pratiquement équilibré. En revanche...
C'est-à-dire la balance entre les importations et les exportations.
Tout à fait. Et alors, en ce qui concerne l'énergie, et quand on considère, quand on situe la Turquie parmi les grands émergents du monde, c'est-à-dire ceux qui ont un PIB qui dépasse 1% du PIB mondial et qui sont tous d'ailleurs parmi les G20, alors parmi ces économies, la Turquie est la plus dépendante. Parce que une économie, par exemple, comme la Chine ou l'Inde, sans parler de la Russie, ce sont des économies qui produisent eux-mêmes, même s'ils dépensent beaucoup de sources énergétiques, elles produisent beaucoup aussi. Par exemple, la Chine, en charbon, c'est qu'elle utilise beaucoup, la première productrice mondiale, mais maintenant en d'autres énergies aussi. Mais la Turquie n'en a pas. Et ça, ça lui constitue un problème très grave parce que, pour 75% de l'énergie qu'elle emploie pour croître, pour consommer, ça vient de l'extérieur. Et donc, on n'arrive jamais à sortir de ce problème, d'autant plus qu'on n'arrive pas à transformer notre industrie à une industrie qui exporte beaucoup de valeur ajoutée. Souvent, on a, donc, dans une certaine période, on a pu en Turquie transformer les exportations des exportations de bas de gamme vers des exportations. Quand j'ai dit bas de gamme, c'est des gammes de prix. C'est pas forcément la technologie, mais la Turquie a toujours concurrencé au niveau des prix. Donc, mais on n'arrive jamais à aller vers le haut de gamme, c'est-à-dire comme en Europe.
La Turquie reste un pays de production textile.
C'est pas que textile. Heureusement, la Turquie, son premier poste d'exportation, c'est quand même des véhicules automobiles. Hein, et ensuite, vous avez quand même pas mal de mécanique, de chimie. La Turquie, en particulier dans les années 2000, a eu une transformation complète de son industrie. Elle a pu entrer dans des chaînes de valeur et aussi elle a produit beaucoup de produits industriels autres que le textile.
Alors les chaînes de valeur, je réexplique, c'est importer un produit, le transformer, puis le réexporter.
Voilà.
C'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur.
Voilà, quand on considère l'industrie automobile par exemple, la Turquie c'est vraiment une plateforme où il y a beaucoup de valeur ajoutée turque dans l'industrie automobile. C'est pas que, donc, dans ces chaînes de valeur, la Turquie ajoute. C'est pas un transformateur. La main d'œuvre et les installations et l'équipement relativement nouveau en Turquie fait que la Turquie est réellement très compétitive. Mais elle ne vendra pas à des prix haut de gamme, même dans l'automobile. Mmh. Du coup, donc, on a un problème du côté de notre déficit qu'on n'arrive pas à combler, notre déficit énergétique.
Alors, revenons justement, Deniz Akgül, à cette question pétrolière et à cette dépendance. Il y a deux pays, je pense, qui fournissent beaucoup la Turquie, c'est l'Iran.
Oui,
l'Iran et la Russie, Deniz Akgül.
Oui, oui. C'est que j'ajouterais qu'à défaut de produire de l'énergie, pour assurer ses approvisionnements, la Turquie nourrit des ambitions pour devenir un hub énergétique. C'est-à-dire que la Turquie souhaite exploiter sa position géographique stratégique pour se transformer en véritable hub énergétique régional, connectant les pays producteurs comme la Russie, l'Azerbaïdjan, l'Asie centrale, au marché européen. On peut citer deux exemples. Vous avez le projet de gazoduc transanatolien, TANAP, qui va relier dès l'année prochaine les producteurs de gaz de la mer Caspienne aux consommateurs européens via l'Anatolie. Autre cas, c'est avec les Russes, puisque la Russie souhaite arrêter le transit de son gaz naturel à destination de l'Europe par l'Ukraine d'ici 2019-2020. Et la Russie a signé un accord avec la Turquie pour la reprise du projet TurkStream. Auparavant, on l'appelait BlueStream, c'est devenu TurkStream, qui va conduire le gaz russe aux portes de l'Europe en passant par la Turquie.
Mais est-ce que c'est très rémunérateur pour le pays qui est le hub, le point de passage de ces gazoducs, oléoducs?
Justement, les Turcs attendent de ces accords, en fait de cette situation, la possibilité de fixer aussi les prix, puisque l'énergie va transiter par la Turquie.
dénisonal, c'est important, cette mutation, ce passage des pipelines et
oui, parce qu'au passage, c'est important pour tous les pays qui se trouvent sur la voie, et en particulier la Turquie. Il n'y a pas que la Turquie, parce que, par exemple, vous allez avoir même la Bulgarie, la Grèce, tous ces pays, pour tous ces pays-là, ça va être des postes d'exportation. Donc, au passage, on va toucher au droit. Mais il faut considérer qu'en particulier quand vous mettez des pipelines, des gazoducs, des oléoducs, ce sont des projets de très long terme. Ça engage, d'abord dans la construction, ça engage une infrastructure énorme avec des groupes multinationaux énormes pour construire. Et ensuite, pour exploiter, c'est signé pour 30 ans, 40 ans ce type de contrat. Donc c'est une revenue sûre sur longue période. Et aussi, ça engage pratiquement géopolitiquement. Vous voyez, avec l'Ukraine, la question de l'Ukraine est tellement cruciale, c'est devenu une crise tellement importante entre l'OTAN finalement d'un côté et la Russie de l'autre, que donc la Russie maintenant contourne carrément l'Ukraine en installant Turkish Stream et en abandonnant South Stream. South Stream, c'était quoi? South Stream, c'était un projet de donc gazoduc qui devait passer toujours sous la mer Noire et atteindre, donc depuis la Russie, la Bulgarie et aller vers l'Europe du Sud. Mais aussi bien les exigences de l'Union européenne pour ne pas être complètement dépendant des Russes en termes de distribution, d'approvisionnement, mais aussi la question ukrainienne a fait que la Russie a abandonné le projet. Et à la place, donc, la Russie fait, grâce à son alliance maintenant avec les Turcs, fait Turkish Stream qui va directement à la Turquie. Et après, donc, l'Europe doit s'entendre avec la Turquie pour son gaz aussi.
Mais est-ce qu'il n'est pas difficile, par exemple, pour les Turcs de faire aussi alliance avec les Iraniens, dont ils sont frontaliers, alors que l'Iran se trouve en butte aux sanctions américaines en particulier?
Oui, il y a les Russes aussi.
Oui, les Russes aussi, oui.
Et il se trouve que, justement, c'est le nœud de l'affaire. Les Turcs ont pris parti, ils ont essayé de respecter au temps d'Obama. Et il y avait une sorte de, avec les États-Unis, il y avait une sorte de bonne entente. Ils ont même payé les Iraniens, dans le cas iranien, en or, ce qui a posé d'autres problèmes. Mais aujourd'hui, et les Turcs, du moins l'une de ces banques, ces banquiers, a été sanctionnée par les Américains. Mais aujourd'hui, on a un problème global dans le monde, parce que pourquoi il y a un problème de payer l'Iran? C'est parce qu'on peut pas utiliser le dollar, qui est la monnaie américaine. Et comme vous savez, actuellement, avec l'administration Trump, le problème s'est généralisé. C'est pas que les Turcs qui en souffrent. Avec le renoncement à l'accord, avec la sortie des Américains de l'accord avec l'Iran sur le nucléaire, toutes les entreprises européennes aussi sont en difficulté.
Mais est-ce qu'il y avait beaucoup d'entreprises turques qui allaient se réimplanter ou s'implanter en Iran?
Je crois qu'il y a plus de 200 entreprises en Iran, et ce sont les premiers. C'est le pays voisin, et il faut savoir que la Turquie n'a pas fait de guerre avec l'Iran depuis les années 1600. Même si les Iraniens et les Turcs peuvent avoir quelques problèmes, ils en ont régulièrement, ils sont jamais en conflit. Et c'est le seul cas dans l'entourage. Alors, les Turcs y sont, et beaucoup d'autres entreprises passent par les Turcs. Et les Turcs ont déclaré qu'ils n'allaient pas respecter.
C'était Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI. Vous l'aurez compris, nous parlons de l'économie turque avec deux invités, Denise Akagül, qui est en duplex de Lille, et ici dans ce studio de RFI, et ici les Moulineaux. Denise Ounal, un peu de musique maintenant avec le groupe Altıngün et un morceau intitulé Kocadun.
Hey, dünya gam yükümü söyle söyle fani dünya dert gibi mi?
Musicale dans ce monde de brut et d'économie, c'était le groupe Altingun et un morceau intitulé Gocha Dunia. Nous retrouvons Deniz Akgül à Lille. Deniz Akgül, Deniz Unal évoquait il y a un instant avant ce morceau musical la situation, les relations entre l'Iran et la Turquie. Est-ce que le fait que les Américains aient rompu l'accord sur le nucléaire et donc interdit à tous ceux qui utilisent le dollar dans leurs échanges internationaux de commercer avec l'Iran est un gros problème pour l'économie turque?
Non, je ne le pense pas, puisque dans les années 1980, par exemple, la Turquie avait gardé ses bonnes relations à la fois avec l'Iran et l'Irak, qui était à l'époque en guerre. Elle en avait même profité pour développer son commerce. Donc, oui, il y aura donc un effet qui va, un frein au développement des échanges commerciaux, mais ce ne sera pas fatal.
Alors, Deniz Akgül, Recep Tayyip Erdogan était un premier ministre autoritaire, un président très autoritaire, avec des centaines de milliers de personnes emprisonnées. Est-ce que ça s'accompagne de faveurs accordées à des amis du régime, à des entreprises? Est-ce qu'il y a une répartition des contrats en fonction des affinités politiques?
Cela a toujours été le cas. Sous les différents gouvernements, il y a toujours un certain clientélisme, donc qui favorise les milieux d'affaires qui sont politiquement proches.
Mais comment caractériseriez-vous la politique économique d'Erdogan, Deniz Akgül?
En fait, on peut considérer deux périodes. Une première période allant de 2002-2003 jusqu'en 2009, jusqu'à la crise des subprimes. La politique économique favorisait la stabilité macroéconomique, donc c'était à l'abri des tentations populistes. Mais depuis 2009, avec la crise des subprimes, le pouvoir, en fait, le gouvernement a profité en fait de l'abondance des capitaux à l'échelle mondiale et a laissé à ajourner les réformes structurelles. Et donc la Turquie pendant ce temps-là a connu une croissance forte mais au prix d'un déficit extérieur très important. Et donc on arrive à la fin de l'abondance des capitaux donc à l'échelle mondiale, ce qui n'a pas tardé en fait à se traduire par une dépréciation de la livre.
Alors, la monnaie turque, vous en parlez, Deniz Akgül, a connu une crise à la mi-mai et perdu en quelques jours plus de 10% de sa valeur face au dollar. Une panique suscitée notamment par les propos du président Erdogan, qui promettait de garder la main sur la banque centrale s'il était réélu, donc le 24 juin prochain. Des propos qui ont poussé le FMI à déclarer qu'il était nécessaire de réaffirmer l'indépendance de la banque centrale vis-à-vis du pouvoir. Cette dernière a finalement eu le dernier mot, mais pour combien de temps? C'est la grande question. Si la monnaie nationale a entamé un redressement, sa stabilisation à terme n'est pas assurée. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Camille La France à Istanbul.
Dans son bureau de change, Bülent n'a pas vu les Turcs se ruer pour changer leurs devises étrangères en livres turcs, contrairement à ce que le président Erdogan a demandé à son peuple à plusieurs reprises pour soutenir la monnaie nationale. Ni l'inverse d'ailleurs, ce scénario que la Turquie avait pourtant connu lors de précédentes crises.
Jusqu'au début des années 90 et 2000, les gens changeaient une partie de leur salaire en dollars ou en euros. Aujourd'hui, le nombre de clients qui accumulent des devises et gardent leur argent est considérablement descendu. Bien sûr, la situation reste inquiétante, mais la question c'est combien de temps est-ce que ça durera encore ?
Ömer Çetinkaya dirige l'entreprise familiale de textile et de transport du même nom qui emploie, dit-il, 7000 personnes, dont 3000 en Turquie, et il a senti les fluctuations de la monnaie.
D'où vient la matière première du textile? De Chine, c'est pour ça qu'on l'achète en dollars. Et quand on revend nos produits en livres turcs, on y perd actuellement. Avant l'intervention de la Banque centrale en tant qu'entreprise familiale, nous avons perdu en moyenne 3 millions de dollars en 3 mois. Je n'ai pas confiance en l'économie turque.
La crainte de l'avenir et d'une dégradation du cours de la livre inquiète surtout les entreprises turques endettées en devises étrangères. Parmi eux, des exportateurs payés en euros ou en dollars qui peuvent donc faire face. Mais pour les autres, la situation devient très difficile. Bahadir Kaleagassi, secrétaire général de la TÜZİAD, première association des industries et entreprises de Turquie.
Quand la livre turque perd de valeur, c'est au-delà des limites de l'incertitude. Donc nous voulons que le nouveau gouvernement qui sera élu soit en mesure d'intervenir très rapidement pour mieux assurer une sécurisation des dettes des entreprises en devises. Et donc il faudra une approche intégrée, collective, bancaire. Et aussi, il faut que le nouveau gouvernement laisse la Banque centrale de la Turquie à faire son devoir. Mais ça se fait que certaines entreprises sont endettées en devises étrangères et que les montants maintenant sont suffisamment hauts pour qu'on puisse parler d'une perspective d'une crise à l'horizon. Et puisqu'on a les outils pour la prévenir, il faut intervenir.
La Banque centrale a finalement repris la main et relevé ses taux. Son gouverneur s'est rendu à Londres pour tenter de rassurer les fonds d'investissement et d'apaiser les marchés. Il a aussi promis d'accélérer les réformes structurelles après les élections.
Un reportage signé Camille La France à Istanbul. Deniz Ünal, qu'est-ce que ça vous inspire, cette bagarre en quelque sorte entre le pouvoir politique turc et la banque centrale qui cherche à préserver son indépendance, le président Erdogan qui fait des déclarations semblant vouloir remettre en cause l'indépendance de cette institution?
En soi, l'indépendance de la banque centrale peut poser problème d'une manière générale. Je veux dire, ça dépend de quelle économie, mais par exemple, Fed est indépendant.
La Réserve fédérale américaine.
Voilà, mais agit en fonction des intérêts de l'économie américaine. Par exemple, en Europe, la question pouvait se poser pour la banque centrale, est-ce qu'elle agissait en fonction des intérêts de tous les citoyens européens parfois, si c'était que une question de politique monétaire. Et alors, pendant longtemps, l'argument d'Erdogan en Turquie, c'est que pour faire du bien à notre économie, parfois, on doit mener une politique conforme aux décisions économiques du pays aussi, pas seulement l'indépendance de la banque centrale pour l'indépendance. Ça pouvait se défendre. Mais dans un pays comme la Turquie, où le compte des capitales est libéralisé, est ouvert depuis 1989, donc depuis très longtemps par rapport à d'autres.
Les capitaux circulent librement, il n'y a pas de contrôle.
Circulent librement. Et c'est beaucoup plus facile en Turquie. En France, c'est vraiment un problème. Quand vous êtes un particulier, c'est pas un problème, mais c'est pas connu, je veux dire. Et que vous voulez ouvrir un compte en dollars comme ça à votre banque, ben, vous pouvez pas vraiment. Personne ne le fait. En Turquie, tout le monde a des comptes en dollars, en euros, en monnaie que vous voulez, monnaie soit internationale. Et surtout maintenant avec la perspective de l'inflation, les gens se disent, je vais tout de suite transformer mes livres turcs en dollars pour ne pas perdre de la valeur au futur. Donc, on a une dollarisation très forte de l'économie, non seulement auprès des entreprises qui doivent utiliser, qui doivent s'endetter en dollars, mais aussi utiliser dans leurs achats le dollar. Quand je dis le dollar, c'est l'euro aussi, une monnaie internationale utilisée. Et aussi bien les particuliers que les entreprises utilisent des dollars. Et dans des périodes de forte inflation, cette dollarisation augmente. Donc, Erdogan a beau dire, ben oui, c'est par rapport aux intérêts de la nation que la Banque centrale doit mener la politique. Les intérêts de la nation, actuellement, impliquent que l'économie ne soit pas aussi dépendante de dollars. Or, comment faire quand on a des entreprises extrêmement endettées? Je pense que après la Chine, au niveau de la dette privée, la Turquie est le second pays. Et même si sa dette publique n'est pas importante, sa dette publique peut devenir importante aussi.
Sa dette publique, oui.
Sa dette publique, c'est seulement 30% du PIB. C'est pas important. Mais avec ce qui se passe en ce moment, par exemple, Denis, vous parlez que Denis Akgül disait, ben voilà, pour le prix de l'énergie, pour ne pas l'augmenter, on renonce à des taxes que le gouvernement encaisse. De la même manière, le gouvernement est en train de renflouer les entreprises publiques et les banques publiques pour qu'elles puissent prêter à l'économie. C'est ce qui était arrivé dans la crise de 2001 qui était très grave pour la Turquie. Une forme de crise de 2008 au niveau national. Ce qu'il y a eu, donc la grande crise au niveau mondial. Nous, on l'a vécu en 2001. Donc, on va un peu vers là-bas. Et la crédibilité des institutions est importante dans ce cas-là. Or, en Turquie, quand vous avez parlé d'Erdogan, il est allé parler à Londres en disant « ben maintenant, il faut que j'ai mon mot à dire dans l'économie ». Et là, ça n'a pas pardonné.
Denis Akgül,
ben, il était conseillé par des économistes qui lui faisaient soutenir l'idée que le niveau du taux d'intérêt est la cause et non la conséquence du taux d'inflation. En fait, ce qui va à l'encontre de l'enseignement standard en économie. Dans un cours d'économie internationale, Denis serait d'accord avec moi, qu'on enseigne le triangle d'incompatibilité de Mundell, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réaliser simultanément trois objectifs, la libre circulation des capitaux, c'est-à-dire la convertibilité de la livre, la stabilité du taux de change et l'autonomie de la politique monétaire, c'est-à-dire fixer indépendamment le taux d'intérêt turc, indépendamment des taux d'intérêt à l'étranger. Et comme la Turquie ne pouvait pas renoncer donc à l'objectif de la libre circulation des capitaux puisque sa croissance dépend des apports de capitaux extérieurs, et comme il y avait à côté une autonomie de la politique monétaire, il fallait renoncer à l'objectif de la stabilité du taux de change, ce qui est confirmé par la dépréciation rapide de la livre. Cela étant, la leçon semble être comprise, puisque la Banque centrale de Turquie a relevé ses taux de plus de 4%, de 400 points de base, durant les 10 derniers jours. Donc, ce qui semble, pour l'instant, calmer les pressions exercées sur la livre turque. Mais j'ajouterais que l'origine du mal est structurelle, à savoir donc le déficit extérieur de l'économie turque, donc sa dépendance vis-à-vis des apports de capitaux extérieurs. Et j'ajouterais par rapport à la crise de 2001, c'est que il s'agit toujours dans les deux cas d'une crise de surchauffe, d'une crise d'endettement, mais cette fois-ci le déficit extérieur est privé. En 2001, environ 60% de la dette extérieure était publique. À l'heure actuelle, c'est 30% donc de la dette extérieure qui est publique. Ce qui va compliquer la consolidation, puisque les débiteurs seront éparpillés. Contrairement à la crise de 2001, où les bailleurs de fonds avaient un seul interlocuteur, donc l'État turc. Et on a vu par exemple deux grands groupes, Ülker et Doğuş,
qui ont demandé...
Oui, ce sont des groupes industriels qui ont demandé aux banques un rééchelonnement de leurs dettes. Et ce type de situation risque de se multiplier. Et par la suite, comme le dit Denis, la dette privée peut être prise en charge par le public. Donc finalement, ce sera le contribuable turc qui va payer la facture.
Un des interlocuteurs de Camille Lafrance, dans son premier reportage tout à l'heure, évoquait la menace d'une récession. Vous y croyez, vous la craignez, Deniz Akgül?
Oui, je l'avais dit dès le début que on a pour l'instant les signes précurseurs d'une crise de surchauffe avec la dépréciation rapide de la livre, mais la question est est-ce que cela va se traduire par une récession, c'est-à-dire par un ralentissement de la croissance, ou bien par une dépression comme en 2001, donc avec une baisse du revenu national. Mais en tout cas, nous avons une crise de surchauffe fait maison, encore une fois, comme en 2001.
C'est-à-dire fabriqué, concocté par le pouvoir politique, par les circonstances?
Oui, en effet. Ce n'est pas comme en 2009, la crise de subprime, c'était un choc extérieur.
Quand il veut dire, je partage son point de vue à Denis, c'est une mauvaise gestion économique. Une mauvaise gouvernance économique qui nous a amené, qui n'a pas du tout rassuré les marchés internationaux dans notre situation. Les interventions publiques, donc des différentes autorités niant les faits, c'est le fort taux d'inflation et notre endettement privé très important, et qui a aggravé la situation. On aurait pu l'éviter.
On aurait pu l'éviter, Deniz Akgül, avec ce pouvoir-là?
Oui, effectivement, on aurait pu l'éviter en veillant, par exemple, à établir l'équilibre extérieur de l'économie turque. Pendant longtemps, les économistes critiques mettaient le doigt sur le problème du déficit extérieur, et on leur disait, mais de toute façon, ce déficit est finançable. Du moment que c'est finançable, cela ne posait aucun problème, puisque le taux de change restait stable, et pas ce qui explique aussi la réduction de l'inflation après la crise de 2001. Les pouvoirs publics ont traîné le pied pour prendre les mesures nécessaires et ont versé, surtout après la crise de subprimes, dans du populisme.
Ce sera le mot de la fin de cette émission, Deniz Akgül, le mot populisme qu'on entend beaucoup sur les antennes, sur les ondes, dans les débats politiques européens et qui affecte donc aussi la Turquie. Merci à vous deux, Deniz Ünal et Deniz Akgül à Lille, d'avoir accepté l'invitation de RFI. Merci à Vincent Cuna, aux manettes à France Bleu Nord, qui a permis ce duplex. Vous pouvez nous réécouter sur le site internet www.rfi.fr à l'onglet émission, ou si vous préférez sur votre téléphone portable, toujours à l'onglet émission, mais sur l'application Pure Radio, qui est l'application mobile de RFI. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques. Dünya gam yükümlüsü.